Je vais accueillir Elisabeth Leydenson. Elisabeth Leydenson est professeure de littérature française et comparée à Columbia University de New York. Elle a défrayé la chronique proustienne en 2004 avec Proust lesbien et a produit ensuite Dirt for Art's Sake, Books on Trial from Madame Bovary to Lolita en 2006. Donc elle étudie les grands procès littéraires en Angleterre, aux États-Unis, de Flaubert à Nabokov, et en France bien sûr, de Flaubert à Nabokov dans ce livre. Et dernièrement, elle a travaillé longtemps aussi sur Colette et reprend aujourd'hui avec une étude sur Proust intitulée « Contre l'amitié ». Grand thème, je te laisse la parole.
Je tiens à remercier Antoine Compagnon, Françoise Le Riche et toutes les personnes que je devrais remercier. Merci, je suis ravie d'être là. Et je suis consciente du fait que je suis tout ce qui vous empêche d'aller déjeuner, donc j'essaierai de ne pas m'éterniser. Je vais essayer peut-être d'abréger un tout petit peu. Bon, contre l'amitié. D'accord. Un jour, en juin 2017, je me trouvais dans la gare Montparnasse à flâner dans une des petites librairies lorsqu'une vision arrêta mes pas. Il s'agissait d'une grande pile de livres par un certain Marcel Proust intitulé « La lecture est une amitié ». Regardant de plus près, j'ai vu que le volume, publié chez Le Castor Astral, faisait partie d'une série intitulée « Les Inattendus ». En effet, j'ai trouvé ce livre inattendu, voire déconcertant, et cela pour deux raisons. Premièrement, je croyais connaître relativement bien la liste des œuvres de Marcel Proust, qui ne contenait pas, à ma connaissance, un volume intitulé « La lecture est une amitié ». Et deuxièmement, croyant connaître relativement bien les œuvres de Proust, je trouvais ce titre non seulement inattendu, mais improbable, car le titre semblait suggérer quelque chose dans la lignée de ce qu'on a appelé la bibliothérapie, sous-genre à cheval entre le self-help et le commentaire autobiographico-littéraire. Ce genre, très populaire aux États-Unis depuis quelques années, et aussi en France depuis peu, a justement été inauguré en 1997 par « How Proust Can Change Your Life » de Alain de Botton, traduite en français presque immédiatement après, sous le titre « Comment Proust peut changer votre vie ». La lecture est une amitié par Marcel Proust semblait être la réponse par Proust lui-même à l'invitation d'Alain de Botton. Pas besoin de regarder ailleurs, tout ce dont vous avez besoin est contenu dans le volume même. Proust peut changer votre vie en devenant votre meilleur ami. Mais pour Proust, croyais-je avoir compris, la lecture n'était pas une amitié, mais plutôt un instrument d'optique. Et d'ailleurs, Proust n'avait-il pas plutôt dénoncé que prôné l'amitié ? Ne comprenant plus rien, j'ai acheté le volume. Il s'est avéré être un recueil, l'intégrale, des préfaces écrites par Proust. Et après quelques recherches, j'ai réussi à identifier la provenance du titre dans « Journée de lecture ». Donc, la préface de sa traduction de « Sésame et les lys » de Ruskin. Et c'est datant de 1905 et puis publié en 1906. Dans cet essai, comme on le sait, Proust décrit les lectures absorbantes et jouissives de l'enfance en une anticipation de plusieurs passages dans Combray, comme l'a déjà dit Françoise de Riche, avant d'entreprendre une critique de la vie de Ruskin sur la lecture. Selon Proust, l'écrivain anglais surestime l'importance de la lecture pour la vie spirituelle, tout en méconnaissant la nature. Je cite « La thèse de Ruskin, écrit-il, nous pouvons la résumer assez exactement par les mots de Descartes, que, il cite, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été des auteurs. » Fin des deux citations. Proust n'est pas d'accord, surtout parce que, contrairement à Descartes et à Ruskin, il rejette la conversation et l'amitié dont elle est l'activité emblématique comme modèle désirable d'interaction humaine. Selon Proust, la lecture est à la fois différente et en fin de compte moins utile que ce que prétendent Descartes et Ruskin après lui. Voici donc le passage dont l'expression « la lecture est une amitié » a été tirée dans l'essai sur la lecture pour faire le titre de ce recueil. Je cite sur la lecture « Sans doute l'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole et la lecture est une amitié. » Mais du moins, c'est une amitié sincère, et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous ne sommes tous, nous les vivants, il y va fort, hein, comme nous ne sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement et où nous mêlons tant de mensonges sont stériles et fatigantes. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Proust continue dans la même veine et remarque par exemple qu'avec Molière, contrairement à nos amis vivants, je cite, « nous ne rions de ce qu'il dit que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Et quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé. Et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. » L'atmosphère de cette pure amitié, continue-t-il, est le silence, plus pur que la parole, car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Fin de citation. Voilà donc le grand avantage de la lecture sur l'amitié, selon Proust. Un livre, cela se fait facilement remettre à sa place. Les êtres humains, par contre, c'est encombrant, c'est fatigant, il faut rester poli, cela fait du bruit. En somme, on perd son temps avec eux et il vaut mieux rester chez soi à lire un bon livre. La lecture est une amitié, certes, et donc nécessairement fastidieuse, mais du moins c'est une amitié sans amabilité et par conséquent tout de même plus reposante. L'amitié est un sujet qui a été traité de diverses manières par des philosophes depuis Platon et Aristote jusqu'à Derrida, et passant notamment par Cicéron, Thomas d'Aquin, Montaigne, bien entendu, et je vais un peu parler de lui, Bacon et Nietzsche, parmi d'autres. Et il semblerait, malgré toutes les distinctions nuancées entre leurs définitions de l'amitié, que tout le monde soit plus ou moins d'accord, au moins sur une question de fond, à savoir que l'amitié est, grosso modo, une bonne chose. L'amitié fait l'unanimité à une seule exception près, celle de Proust. Dans son épilogue intitulé « L'amitié de Proust » au volume « Proust et ses amis » publié en 2010 à la suite du colloque de 2008, Jean-Yves Tadier explique que, je cite, « Proust est véritablement obsédé par l'amitié qui est un des principaux thèmes de l'œuvre. Dans la recherche, il emploie 1498 fois le mot « ami » et ses dérivés, 232 fois le mot « amitié » au singulier ou au pluriel, c'est-à-dire beaucoup plus, peut-être 10 fois plus, que dans la moyenne des textes littéraires modernes. On peut le considérer comme un des principaux théoriciens de l'amitié à la suite de Platon, Aristote, Cicéron et de Montaigne, dont, sans d'ailleurs jamais le citer, il prend le contre-pied. Fin de citation. Et Tadier d'ajouter, il écrit un véritable contrat amicitiam. Mon sujet aujourd'hui est donc ce contrat amicitiam virtuel et paradoxal qui ressort de la recherche. Pour avoir une idée préliminaire de combien et pourquoi l'amitié est un sujet compliqué chez Proust, c'est-à-dire à la fois pour Proust l'auteur et l'individu, son narrateur, son lecteur et ses commentateurs, on n'a pas besoin d'aller plus loin que la chronologie dans le premier volume de la Pléiade, où nous apprenons qu'en juillet 1896, je cite, Proust se lie avec le jeune Lucien Daudet, son amitié avec Reynaldo Hahn n'est plus que de l'amitié. Voici une illustration de la nature de la difficulté. Son amitié avec Reynaldo Hahn n'est plus que de l'amitié. C'est que le mot « amitié », venant plus ou moins directement du latin « amicitia », partage sa racine avec le mot « amor », « amour ». Et d'ailleurs, le verbe est le même dans les deux cas, « aimer » faisant office de toutes sortes d'amour en français, contrairement au vocabulaire latin même, qui distingue davantage entre différentes espèces d'amour, quoique beaucoup moins que le grec avec ses « agapé », « philia », « eros », etc. En anglais, la distinction semblerait nette entre « love » et « friendship », les deux mots venant de deux racines germaniques différentes. Mais en fait, même si le vocabulaire semblerait présenter une échappatoire utile, le problème demeure. Contrairement à l'anglais, le français permet de formuler des évasions euphémistiques telles que « son amitié avec Reynaldo Hahn n'est plus que de l'amitié ». Mais la difficulté reste la même. Le contrat amicitiam de Proust est en grande partie motivé par le manque de distinction claire et nette entre amitié et amour lorsqu'il s'agit de personnes du même sexe. L'on pourrait en effet extraire toute une contribution à l'anthologie philosophique sur l'amitié en assemblant les petits essais sur ce sujet qui sont parsemés dans la recherche. Voici l'argument de base articulé, par exemple, dans le deuxième volume. Je cite « Seul, quelquefois, je sentais affluer du fond de moi quelqu'une de ces impressions qui me donnait un bien-être délicieux. » Mais dès que j'étais avec quelqu'un, dès que je parlais à un ami, mon esprit faisait volte-face et c'était vers cet interlocuteur et non vers moi-même qu'il dirigeait ses pensées. Et quand elle suivait ce sens inverse, elle ne me procurait aucun plaisir. » Fin de citation. Non seulement est-ce que l'amitié nuit à la productivité spirituelle et artistique, ce que le narrateur souligne dans les passages comme celui-ci, et que, contrairement à la lecture qui nous permet de prendre contact avec des morts à la fois intéressants et absents, les relations amicales avec des amis vivants et présents ne sont même pas agréables. Comme le passage que je viens de citer, les dénonciations de l'amitié dans la recherche se trouvent presque toutes dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », à l'exception près d'un renvoi dans le côté de Guermantes II, où, s'étonnant que quelqu'un comme Nietzsche ait pu célébrer l'amitié, le narrateur caractérise ses plaisirs comme étant, je cite, « d'une qualité si médiocre qu'elle ressemblait à quelque chose d'intermédiaire entre la fatigue et l'ennui ». Fin de citation. Ici comme ailleurs, la dénonciation de l'amitié dans le roman et en fait tout le discours sur l'amitié est quasi exclusivement, en fait je crois que j'ai dit quasi, mais en fait c'est exclusivement lié aux relations du protagoniste avec Robert de Saint-Loup. Cette dernière observation que je viens de citer sur Nietzsche précède la description pourtant exaltée de la soirée au restaurant où Saint-Loup court acrobatiquement sur les banquettes pour apporter un manteau à son ami de peur qu'il n'ait froid. Mais l'exaltation est à la fois soulignée et mitigée par la conclusion. Je cite « Pour lui comme pour moi, ce fut le soir de l'amitié. Pourtant, celle que je ressentais en ce moment, et à cause de cela non sans quelques remords, n'était guère, je le craignais, celle qu'il lui eût plu d'inspirer. Tout rempli encore du plaisir que j'avais eu à le voir s'avancer au petit galop et toucher gracieusement au but, je sentais que ce plaisir tenait à ce que chacun des mouvements développés le long du mur sur la banquette avait sa signification, sa cause, dans la nature individuelle de Saint-Loup peut-être, mais plus encore dans celle que, par la naissance et par l'éducation, il avait hérité de sa race. » Fin de citation. Ainsi, même cette scène, le soir de l'amitié, qui représente l'apogée du dévouement amical dans le roman, est revue sous l'égide d'une appréciation esthético-raciale pour éviter de mettre en question la distinction rigoureuse entre amour et amitié et la théorie de l'amitié comme cul-de-sac des relations humaines. De cette manière, l'amitié est toujours, en principe, contrastée avec l'amour, L'amour proustien, c'est-à-dire l'obsession érotique qui s'exprime par la jalousie et le désir impossible de prendre possession de l'être aimé en pénétrant son intériorité psychique. Toute tentative de vraie communion entre personnes vivantes et présentes étant vouée à l'échec dans l'univers proustien, l'amour est dépeint comme improbablement productif, contrairement à l'amitié, précisément dans ce qui comporte de futilité évidente. Manifestement, l'amour ne peut mener à rien, ce qui veut dire que l'amant est forcé de prendre conscience de l'impossibilité des relations humaines. Ce qui est bien. Contrairement à l'amitié qui donne une fausse impression de communication réelle et représente par conséquent une pure perte de temps, l'amour, par sa stérilité même, incite donc à l'autocontemplation solitaire qui seule peut conduire à une fécondité spirituelle. Avant la rencontre avec Saint-Loup à Balbec dans le deuxième volume, il n'est pas beaucoup question d'amitié en tant que telle. En fait, la confusion entre amour et amitié est déjà en évidence dans le premier volume, mais dans le sens plus banal, ou du moins plus simple, de l'infatuation du héros pour Gilberte, avec laquelle il joue tous les jours en tant que camarade, mais dont il est tombé éperdument amoureux. Le résultat est ce qui est présenté comme une amitié non réciproque, ce qui est en principe un oxymore. Je cite « Dans mon amitié avec Gilberte, c'est moi seule qui aimais ». Fin de citation. Ici, la confusion entre amitié et amour reflète pleinement le flou des relations entre les deux jeunes camarades, encouragés aussi par l'ambiguïté inscrite dans le verbe « aimer », le tout avec une couche supplémentaire de litote style grand siècle. La grande histoire d'amour-amitié débutant avec Gilberte est responsable de la plupart des occurrences des mots ami au masculin et au féminin, et amitié dans le premier volume, puisqu'en dehors des élucubrations du narrateur à propos de Gilberte, il n'est presque pas question d'amitié dans Du côté de chez Swann du tout, ce qui serait étrange si l'explication ne l'était encore plus. C'est que le protagoniste, enfant ou jeune adolescent, ne va pas à l'école. Ou plutôt, il va à l'école, puisqu'il le mentionne de temps en temps en passant, mais n'en parle pas. L'école est étrangement absente du roman, et avec elle, les camarades d'école, sauf Bloch. Bloch, qui fait sa première apparition au milieu de Combray, est en tant qu'ami à peu près le contraire de tout ce que célèbrent Aristote, Montaigne et compagnie quand ils chantent les louanges de l'amitié. Bloch, c'est l'ami qui vous veut du bien, comme dans le film, l'ami ennemi, frenemy, comme on dit en anglais. Il commence par offenser la famille du narrateur de diverses manières, y compris en suggérant que la sévère grand-tante a eu un passé galant, fait office d'entremetteur sexuel en menant son ami au bordel et en l'assurant que toutes les femmes ne pensent qu'à ça, et finit par incarner une grande variété de caractéristiques déplaisantes d'un bout du roman à l'autre. Il est, par exemple, à la fois un snob vulgaire et juif arriviste, tout en tenant des propos antisémites sur la plage de Balbec. En somme, il a tout pour déplaire. Bloch est le premier ami que le narrateur nous présente, ainsi que le seul qui l'accompagne de manière plus ou moins constante, de manière intermittente, en fait, consistante, hein, jusqu'à la fin. Et de surcroît, ce personnage comique et quelque peu répugnant représente l'unique camarade de classe mentionné par son nom et presque la seule trace de l'école dans le roman. L'absence de l'école dans la recherche se comprend mieux dès qu'on jette un coup d'œil sur les écrits de jeunesse de Proust, surtout sa correspondance d'adolescence, ou qu'on ouvre l'œuvre incomplète et fragmentaire des années 90, qui a été publiée de manière posthume sous le nom de son protagoniste, Jean Santeuil. L'expérience de Jean à l'école semblerait suivre de près celle de l'auteur au lycée Condorcet, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup de temps à se faire moquer par ses camarades pour sa sensibilité et ses manières étranges et efféminées. Voici une description des devoirs de Jean. Je cite « de Jean Santeuil, il couvrait des pages, s'enivrant de sa vitesse, exhalant la tristesse infinie et délicieuse que lui causait le supplice de Jeanne d'Arc ou les paroles du connétable de Bourbon, et les ornant pour faire admirer l'étendue de ses lectures d'images empruntées au poète qu'il lisait. Aussi ses devoirs, conçus dans les larmes, étaient-ils écoutés au milieu des rires. Fin de citation. Et voici ce que Daniel Halévy, son condisciple à Condorcet, avec son cousin Jacques Bizet, l'un des principaux objets des 20 tentatives de séduction du jeune Proust, comme en témoigne sa correspondance. Donc, Halévy écrit à propos de Proust dans ses mémoires intitulées « Pays parisien », datant de 1932, je cite, « Il y avait là quelque chose qui ne nous plaisait pas, et nous répondions par un mot brusque, nous esquissions une bourrade. Il était décidément trop peu garçon pour nous. » Observation qui répète presque mot pour mot 30 ans plus tard dans le film de Roger Stéphane, Portrait souvenir. Le portrait des expériences adolescentes de Jean Santeuil semblerait donc directement inspiré de la jeunesse de Proust, sauf qu'il introduit au milieu des moqueries des camarades de classe une rencontre amicale amoureuse avec un autre garçon qui viendrait droit d'un conte de fées homo-érotique, s'il y avait des contes de fées homo-érotiques. Henri de Réveillon, dont le nom porte la trace du séjour de Proust avec Reynaldo Hahn au château de Réveillon chez Madeleine Lemaire, au début de leur amitié, lorsque celle-ci était encore plus que de l'amitié, apparaît au moment où Jean se trouve poursuivi par une horde de 200 garçons. 200, c'est quand même beaucoup, hein? Une horde de 200 garçons qui ne lui veulent pas de bien. Le jeune, qui veulent le tabasser. Le jeune et bel aristocrate sauve Jean, l'invite dans sa voiture et le ramène chez lui, où sa mère, la duchesse, exprime sa joie de faire enfin la connaissance de ce Jean Santeuil dont elle a tant entendu parler et que son fils admire tant. Il s'avère qu'Henri avait aimé Jean d'amitié tendre, de loin, depuis longtemps, mais sa nature réservée et son éducation de jeune noble lui avaient imposé une froideur qui n'était qu'apparente. Les deux garçons deviennent désormais inséparables, et tout cela anticipe très clairement la rencontre avec Robert de Saint-Loup dans La Recherche, y compris une version préalable de la scène du soir de l'amitié, sauf qu'il n'y a aucune dénonciation de l'amitié et d'ailleurs aucune expression d'ambivalence à cet égard. Plutôt au contraire. Jean Santeuil contient également des ébauches de scènes d'obsession hétérosexuelle qui ressemblent aux amours de Swann avec Odette et du héros avec Albertine, mais les passages avec Henri de Réveillon, qui réapparaît plus tard sous le nom de Bertrand de Réveillon dans des textes vraisemblablement écrits plus tard, vers 1902, semblait-il, lorsque l'auteur était amoureux de Bertrand de Fénelon, donne une forte saveur d'homo-érotisme à l'histoire de Jean. Une des différences pertinentes à mon sujet entre les écrits de jeunesse, y compris la correspondance et la recherche, est l'absence totale de référence à Montaigne dans l'œuvre de la maturité. Or, le jeune Proust mentionne l'essai de l'amitié, souvent dans ses lettres, invoquant Montaigne et Socrate pour essayer de convaincre Daniel Halévy et Jacques Bizet, notamment qu'un peu de pédérastie amicale et juvénile n'avait jamais nui à personne. Et dans Jean Santeuil, le premier geste d'Henri de Réveillon pour témoigner de ses sentiments envers Jean est de lui fournir 200 lignes de l'amitié, texte choisi par Henri, copié de sa propre main et signé par lui du nom de son ami, à qui un professeur courroucé avait imposé ce pensum, 200 lignes de quelque chose. Il semblerait en effet que l'association de Montaigne avec cet essai en particulier et les implications homo-érotiques que le jeune Proust y décèle seraient à la base de l'absence de toute allusion à l'essayiste dans la recherche. D'ailleurs, on voit mal comment le narrateur pourrait citer cet essai, puisque le contraste entre l'amour et l'amitié que dessine Montaigne viendrait très mal à propos. Je cite de l'amitié, « Ainsi, ces deux passions sont entrées chez moi en connaissance l'une de l'autre, mais en comparaison, jamais. La première, amitié entre hommes, maintenant sa route d'un vol hautain et superbe, et regardant dédaigneusement celle-ci, amour entre hommes et femmes, passer ses pointes bien loin au-dessous d'elle. Fin de citation. Il est vrai qu'il ajoute obligatoirement que cette autre licence grecque est justement abhorrée par nos mœurs, mais pour Proust, le tout ne fait pas son affaire. Le nom de l'essayiste est évoqué une seule fois dans les esquisses reproduites dans l'édition de la Pléiade, dans un paragraphe que Proust avait déjà rayé avant de rejeter le passage en entier dans Sodome et Gomorre. Il s'agit d'une discussion des œuvres littéraires dans lesquelles les lecteurs invertis cherchent la confirmation de leur idée fixe dans les descriptions de ce que le narrateur appelle une amitié un peu ardente. Je cite, « Alors, ils cherchent la ressemblance de ce qu'ils ressentent moins dans la peinture de l'amour de Musset pour George Sand que dans celle de l'amitié de Montaigne pour la Boétie, image de leurs amours inexaucés pour des amis différents d'eux et auxquels, à cause de leur chasteté involontaire, ils donnent le nom d'amitié ou se complaisent avec un sourire aux églogues de Virgile, à telle ode d'Horace, à telle page de Platon. » Fin de citation. Dans une lettre à Daniel Halévy en 1888, quand Proust avait 17 ans et le destinataire 15 ou 16, Proust avait écrit « Je te parlerai volontiers de deux maîtres de fine sagesse qui dans la vie ne cueillirent que la fleur, Socrate et Montaigne ». C'est donc assez clairement à cause de cette association que le narrateur n'évoque jamais Montaigne, et lorsqu'il veut s'étonner qu'un philosophe ait pu surestimer l'amitié, c'est à Nietzsche plutôt que Montaigne qu'il a recours. Mais il ne faut pas oublier que Daniel Halévy, de lycéen aux beaux yeux pâles, deviendra le biographe et le plus éminent spécialiste français de Nietzsche. Il est donc possible que dans l'esprit de Proust, le nom de Nietzsche même ait pu évoquer de manière indirecte ses engouements adolescents. Ou bien c'est simplement une coïncidence. J'ai quelques minutes, il me reste quelques... Oui, ok. Ou bien c'est simplement une coïncidence, mais en tout cas, il existe une autre coïncidence remarquable liée à tout cela, dans le fait que les deux objets de poursuite amoureuse de Proust lycéen, Halévy et son cousin Jacques Bizet, étaient les fils des auteurs de l'opéra Carmen, puisque le refrain de l'air « L'amour est enfant de Bohème »« Si je ne t'aime pas, tu m'aimes, et si tu m'aimes, prends garde à... si je t'aime, prends garde à toi » pourrait servir de devise à tout le système de l'amour dans la recherche. L'amour, du moins en principe, est dépeint comme un jeu de stratégie à somme nulle, c'est-à-dire précisément ce que nomme Carmen en termes de relations amoureuses dans cette chanson. Dans un jeu à somme nulle, le gain de l'un est égal à la perte de l'autre et la somme des gains et des pertes est toujours égale à zéro. Dans Jean Santeuil, l'amour hétérosexuel est déjà conforme à cette règle, mais l'amour amitié entre garçons ressemble plutôt aux amours des contes de fées, où tout le monde gagne à la fin dans une relation pleinement réciproque et ils vécurent heureux même s'ils n'eurent pas d'enfants. Dans la recherche, par contre, comme on l'a vu, l'amitié perd son côté jouissif et se voit dénoncée comme une perte de temps ressemblant à quelque chose d'intermédiaire entre la fatigue et l'ennui. Mais l'amitié avec Saint-Loup garde néanmoins la trace de la structure amoureuse de « si tu ne m'aimes pas, je t'aime » et « si je t'aime, prends garde à toi » puisque le héros attend avec enthousiasme de connaître le neveu de Madame de Villeparisis, se sent blessé quand ce dernier l'accueille froidement. Et puis, lorsqu'il comprend que la froideur de son nouvel ami n'est que réticence aristocratique et Saint-Loup lui fait des vœux d'amitié ardents, c'est à ce moment-là que le héros commence à estimer qu'il serait à la fois plus agréable et plus utile de rester seul et que l'amitié n'est qu'une perte de temps. Avec Saint-Loup, en effet, il se comporte plus ou moins comme Odette, Gilberte ou Albertine, ou bien Morel, c'est-à-dire comme l'objet d'amour qui se désintéresse de l'amant et au fur et à mesure que celui-ci témoigne de son ardeur. Ce que je voudrais, est donc la distinction entre l'amour et l'amitié est déjà floue, sans commentaire théorique. parce que ça nuirait à la théorie qui est là. Ce que je voudrais essayer de suggérer, je crois que c'est assez clair, c'est que le contrat amicitiam qu'on peut extraire de la recherche est en grande partie motivé par un effort de conjurer le sort homosexuel. Il semblerait que Proust avait compris à quel point les passages sur l'amitié entre Jean et Henri, et plus tard Bertrand de Réveillon, répandaient un parfum de pédérastie juvénile, et afin de pouvoir inclure une représentation et interrogation théorique de l'inversion dans son roman définitif, il devrait prendre soin d'éviter ce genre de suggestion. Il a donc systématiquement accompagné son portrait de Robert de Saint-Loup, avatar du jeune Réveillon, et l'amitié du héros avec lui d'une dénonciation éparpillée de l'amitié théorie et pratique. Je suis donc tenté de conclure en disant que l'essai contre l'amitié contenu dans la recherche explique entièrement par la peur, s'explique entièrement par la peur chez l'auteur de se démasquer en tant qu'homosexuel et ainsi compromettre à la fois sa réputation personnelle et l'envergure universelle et universaliste de son œuvre. Mais ce ne serait pas tout à fait exact. Jean Santeuil, roman écrit à la troisième personne, est précédé par un cadre narratif dans lequel un narrateur, à la première personne donc, qui correspond plus ou moins avec Proust, fait un voyage avec un ami plus ou moins, qui correspond plus ou moins avec Reynaldo Hahn, selon des indications biographiques, en Bretagne. À l'hôtel au bord de la mer, ils reconnaissent un auteur célèbre qu'ils idolâtrent et réussissent à faire sa connaissance. C'est une anticipation, évidemment, de ce qui deviendra la rencontre avec Elstir dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. L'écrivain, pudiquement baptisé de l'initiale C, leur donne un manuscrit que Jean accepte de faire publier beaucoup plus tard quand il apprend la mort de C, et c'est cela l'histoire de Jean Santeuil. J'ai presque terminé. Proust ne semble pas avoir contemplé l'imprudence du projet de présenter son roman comme le fruit de la maturité d'un grand écrivain, mais tant mieux pour nous. La rencontre avec C contient une remarque qui démontre que j'aurais eu tort d'imaginer que les dénonciations de l'amitié dans la recherche ne sont que le produit des efforts de Proust pour sauvegarder sa bona fides hétérosexuelle. À un moment donné, C explique au narrateur pourquoi il n'écrit jamais de lettres d'amitié, équivalent belle époque de Facebook, paraît-il. Je cite, « Il est considéré comme des sortes de paratonnerres qui tirent à l'esprit son électricité et ne lui permettent de s'accumuler jusqu'à ses véritables orages intérieurs où peut seulement jaillir le véritable éclair de génie où la parole humaine prend une puissance qui la fait retenir au loin comme le tonnerre. » Fin de citation. Voilà donc ce que le narrateur de la recherche ne peut pas dire directement, puisque cet argument contre les lettres d'amitié est attribué à un auteur célèbre, il peut exprimer la base tacite de la dénonciation de l'amitié, il contient le langage des éclairs de génie que la première personne ne peut pas se permettre. Le contrat amicitiam de Proust est donc parfaitement surdéterminé, à la fois un paratonnerre pour emprunter la métaphore de ce passage, érigé pour protéger l'auteur contre des soupçons d'homosexualité et l'expression, de l'autre côté, l'expression d'un sincère désir de ne pas laisser saper son génie orageux dans de vaines mondanités. Ce n'est qu'au moment où Proust s'est rendu compte qu'il fallait faire fondre ensemble le narrateur du cadre, le ridicule Jean et le grand écrivain C, dans un seul et même personnage qu'il a pu commencer son grand roman. Voilà.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce très beau parcours à travers les figures complexes de l'amitié, de l'amour qui n'ose pas se dire et se...
Oui, c'est très compliqué.
Oui,
hein.
Voilà, et s'avouer. Effectivement, la question des camarades de classe qui abondent, comme tu l'as très bien montré, dans Jean Santeuil et qui disparaissent complètement, sauf ce ridicule bloc dans la recherche, est un sujet d'étonnement perpétuel. Donc, oui, on propose des explications tout à fait stimulantes et intéressantes. Mais alors, précisément, dans le cas de Saint-Loup, Bon, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis sur cette attente, cette mythification du jeune aristocrate, cette blessure de n'être pas salué, donc un petit peu comme Julien Sorel qui pense que Madame de Rênal le méprise parce qu'il est moins élevé dans la société, alors que finalement cette distance serait liée peut-être à une sorte d'habitus aristocratique. Mais quand on voit la fin du roman, et en fait, le destin de Saint-Loup, qui révèle peut-être une nature qui était déjà la sienne, une sorte d'ambiguïté sexuelle, est-ce qu'on ne peut pas relire à rebours, finalement, cette attitude de Saint-Loup distant ?
Ben oui, enfin, le narrateur le dit. Il y a deux relectures. Enfin, il y a une hésitation dans le roman même, au moment où il dévoile l'inverse, enfin, que Saint-Loup aime... des garçons et aime les garçons et il essaie de aime les hommes. Il essaie de savoir quand ça a commencé. Est-ce qu'il est et donc il discute de cela, mais il y a une hésitation dans le roman et donc il n'y a pas de conclusion. Il y a Aimé, le maître d'hôtel, qui semble d'une omniscience sexuelle, qui dit que ah oui, bien sûr, cet été même, il s'enfermait avec le liftier, etc. C'était que tout le monde connaissait, enfin tout le monde savait qu'il était comme ça. Mais d'un autre côté, il y a une autre. Je crois que ça devient. C'est un sujet de beaucoup d'anxiété parce que ça remettrait en cause en principe l'amitié. Entre eux, mais c'est compliqué, quoi. Enfin, j'aurais pu ajouter tout un...
Ouais. Non, il y a aussi un passage qui était dans les brouillons et qui a disparu, c'est la façon dont dans les brouillons, l'aristocrate était une sorte de mentor qui se promenait avec bras dessous avec son protégé, etc., et qui était quand même assez explicite sur l'ambition que l'aristocrate avait pour ce jeune homme et ses motivations, et ça a quand même beaucoup disparu. Donc il y a quand même des tentatives romanesques que Proust auquel Proust a renoncé finalement.
Non, mais Proust, ce qui est évident, je crois, c'est que Proust ne sait pas quoi faire de cela. Il hésite entre plusieurs possibilités. Est-ce que je pourrais me permettre d'ajouter quelque chose que j'aurais voulu ajouter quelque chose à propos de ce volume, La lecture est une amitié, parce que, j'ai trouvé ça remarquable qu'on puisse donner ça comme titre à ce volume. Je me suis rendu compte, il me semble que, parce que c'est exact, ça implique exactement le contraire de ce que dit Proust dans le contexte de l'essai sur la lecture, c'est-à-dire que oui, la lecture est une amitié, semblerait suggérer que une sorte, comme j'ai dit, d'approche bibliothérapeutique, sujet qu'il aborde d'ailleurs brièvement dans cet essai sur la lecture, mais en fait, ça, il me semble que on veut voir un Proust qui nous dit que la lecture est une amitié, que l'amitié est bien, que la lecture c'est bien, et que par la lecture on peut guérir. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il dit. Proust, ça me semble l'exemple même de la façon dont Proust, en fait, nous offre le contraire de ce qu'on veut entendre de lui. Donc, c'est comme ça que j'aurais voulu terminer mes propos. Voilà.
Merci. Donc, il nous reste la place de deux questions.